Chapitre 4. Pierre Fernault apparaît et disparaît. Margaret Drake n'avait jamais manqué de sang-froid. Malgré son trouble et sa surprise, elle réussit à maîtriser ses nerfs et chuchota « Mais qui êtes-vous, monsieur ?»« Pierre Fernault, lieutenant à bord du baleinier canadien Krampus, » répondit l'inconnu en collant sa face contre les barres défendant le hublot. Je retournais à bord de mon bâtiment lorsque cette nuit j'ai croisé les bandits qui vous avaient enlevés. Je les ai suivis, vous comprenez. Ils étaient quatre, dont un portait un sac dans lequel vous vous trouviez. C'était facile à voir qu'il contenait un être humain, rien qu'à la forme. Surtout que les bandits marchaient hâtivement en regardant autour d'eux, comme des gens qui n'ont pas de conscience tranquille. Et moi, je n'étais pas armé. Malgré cela, je m'approchais d'eux dans le but de leur demander des explications, mais je pus entendre celui qui paraissait le chef grogner en allemand, un de ses acolytes. « Si ça va mal, un coup de poignard dans le cœur de la fille, Otto !» Ça en fut assez. Je compris que si j'intervenais, les bandits vous tueraient sans hésiter. Je feignis d'être ivre et m'éloignai en titubant. Mais j'avais deviné que les rascals se dirigeaient vers le piège, vers la plage. Je les suivis en me dissimulant entre les huttes et puis les voir s'embarquer sur un des canots de l'Adler. J'attendis qu'ils se fussent assez éloignés et me jeter à l'eau, histoire de voir la fin de l'affaire. Je suis très curieux de ma nature, miss. Je nageais vers l'Adler. Heureusement que la lune était cachée par des nuages. On ne me vit pas. J'atteignis le yacht juste au moment où il achevait de déraper son ancre. Cela, je ne l'avais pas prévu. Je croyais naïvement que l'Adler allait rester là. Je pensais me renseigner et revenir à terre pour prévenir la police japonaise. Et voilà que le yacht appareillait. Alors, sans réfléchir, je grinçais à bord en m'aidant d'un bizarre appareil qui se trouve à l'arrière. C'était un énorme treuil, comme ceux des bateaux câbliers. Les matelots étaient tous à l'avant, nul ne m'a vu. J'allais me dissimuler dans la cuve qui se trouve à l'arrière du grand mât, et pendant ce temps-là, l'Adler, ayant dérapé son ancre, filait vers le large. Je vous avoue, miss, que j'eus grande envie de me jeter à l'eau de nouveau et de regagner la terre, car, tel que vous m'entendez, me voilà déserteur de mon navire. C'est grave, ça, mais il vaut mieux être en déserteur que d'être un lâche. Puisque moi, Pierre Fernault, je ne savais qu'une femme était prisonnière à bord de ce yacht de bandits, je ne devais pas l'abandonner. Alors je restais donc. Et de ma cachette, j'ai vu tout à l'heure quand vous descendez à l'intérieur du navire. J'ai pensé que plus vite je pourrais communiquer avec vous, mieux cela vaudrait. Et comme il n'y avait personne sur le pont, je suis sorti de ma cuve et j'ai fait ma petite inspection. Je suis descendu dans les portes haubans du grand mât, d'où j'ai pu voir que les hublots d'une cabine étaient grillagés. J'ai deviné sans peine que cette cabine devait vous servir de prison. Et je suis descendu le long du bord au moyen d'une quinte-à-hue pour tenter de communiquer avec vous et de vous dire que vous n'étiez pas abandonné. Croyez, miss, que je ferai l'impossible pour vous délivrer. Avez-vous une idée ? Oh. Si Margaret avait une idée, non. Non, immobile, très pâle, elle fixait le visage de Pierre Fernault. Une large face attelée par le souffle du large, où luisaient deux yeux noirs. Une petite moustache brune ombrait la lèvre supérieure du marin. Un foulard de soie que la brise faisait palpiter était noué autour de son cou. Pendant quelques instants, il attendit une réponse. Sa position devait être très fatigante, suspendue comme il l'était, ses mains crispées aux barres de fer du hublot. Mais son visage restait impassible et ne trahissait pas l'effort qu'il soutenait. « Monsieur Fernault, chuchota enfin Margaret, croyez bien que je vous suis infiniment reconnaissante de votre courage. Je ne sais que vous dire, malheureusement. Il me semble que je deviens folle. Ce navire appartient à un financier nommé Chrysler, qui a enlevé mon père et le tient en léthargie dans la cale au moyen d'une invention diabolique. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur, en tentant quelque chose, que Chrysler se venge en tuant mon père. Mon père, c'est Monsieur Francis Drake. Vous devez connaître son nom. Oh, Francis Drake, le banquier, demanda Fernaud. Oui, monsieur. Il est dans la cale de ce navire, dans un compartiment frigorifique, avec d'autres personnes que je connais pas. Ce Chrysler veut s'emparer de la fortune de mon père. Il reculera devant rien pour cela. Déjà, il a réussi à envoyer un câblogramme à l'argent de change de mon père. Un faux câblogramme qui est arrivé, nul ne peut savoir comment. Et grâce à ce faux, Chrysler a pu... Margaret Drake s'interrompit. La face de Fernaud avait disparu. À travers le grillage du hublot, la jeune fille n'apercevait plus que l'horizon étoilé. Était-il remonté sur le pont? Était-il tombé à la mer? Margaret Drake, le cœur battant, attendit. Mais le marin ne reparut plus. Que penser? La prisonnière, en proie à une horrible angoisse, colla sa face contre le hublot. Elle ne vit rien. Elle essaya de deviner par le raisonnement ce qu'était devenu le lieutenant du Krampus. Tombé à la mer! Mais Margaret aurait entendu le bruit causé par le choc du corps contre la surface de l'eau. À moins que le ronflement des machines et le clapotis des vagues contre la coque de l'Adler ne l'eussent empêché. Peut-être aussi que Pierre Fernaud avait été surpris par les marins du yacht. Et en ce cas, la jeune fille eut perçu des cris, ou du moins le bruit d'une lutte. Et tout était silencieux à bord de l'Adler. Margaret Drake, après s'être restée plus d'une heure immobile devant le hublot où était apparu Pierre Fernaud, se laissa tomber sur le divan à bout d'énergie. Le jour venait. Par les hublots, une lueur nacrée envahissait rapidement la cabine, faisant pâlir la clarté de l'ampoule électrique. La jeune fille, prostrée, resta ainsi sans bouger, ne sachant plus que penser. Il lui semblait qu'une chape de plomb pesait sur ses épaules. Elle avait fermé les yeux, mais sans cesse, devant sa rétine, passaient les images de son père glacé, pâle, inanimé, et de la face de Pierre Fernaud, telle qu'elle lui était apparue derrière les grilles du hublot. Deux coups rudes, frappés contre la porte de la cabine, l'arrachèrent à sa sombre rêverie. Elle se redressa et cria d'entrer. Un nègre apparut, portant un plateau d'argent, où étaient disposés une tasse, une cafetière, un pot de lait et plusieurs rôtis. Sans mot dire, il le déposa sur un guéridon et disparut. « Oh, il doit être 8 heures, » pensa Margaret en se souvenant des paroles de Chrysler. Elle n'avait pas faim. Elle se força pourtant et réussit à avaler une tasse de thé et quelques bouchées de pain grillé. Elle voulait conserver ses forces. Ayant terminé ce léger repas, elle s'étendit de nouveau sur le divan et finit par succomber au sommeil. Lorsqu'elle se réveilla, elle vit que le plateau avait disparu. Le nègre avait dû revenir. Et les heures passèrent. Marguerite, assise sur une chaise, contempla le ciel bleu à travers les grilles du hublot, avec le vague espoir de voir apparaître le visage de Pierre Fernaud, mais cette attente fut vaine. La nuit revint. Ce fut avec joie que Margaret vit l'obscurité succéder au jour. Elle pensait que le lieutenant du Krampus allait reparaître. Il ne se montra pas. Lorsque l'aube pâlit le ciel noir, Margaret Drake, épuisée par une nuit de veille, abandonna tout espoir de revoir le marin. À côté, dans l'angle du divan, elle essaya de dormir, mais l'on frappa. Sans même attendre que la jeune fille l'eût invitée à entrer, Kras Kressler apparut impassible et dur comme toujours. « Fatigué ? » dit-il de sa voix brève. « Je comprends ça. J'aurais mieux fait dormir, mais Drake. Et de ne pas vous épuiser par une veille inutile. Oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que tout a bien fonctionné. Une invention merveilleuse en vérité. Francis Drake est dans la cabine en excellente santé. Ainsi vous allez vous en assurer en me suivant. Il tient qu'à vous que je le ramène à Frisco. Faites-lui comprendre qu'il doit me céder ses parts dans les affaires qu'il contrôle, et acceptez vous-même de vous marier avec moi. Ce sera vite fait. Dans 4 ou 5 jours, nous serons dans un pays où un mariage ne demande que 10 minutes. Vous serez une femme heureuse. Je vous laisserai repartir avec votre père. Ce mariage, pour moi, n'est qu'une simple formalité, un moyen d'éviter des histoires. Et une fois que Francis Drake sera mon beau-père, je défie de m'attenter un procès. Je suis fort, vous le voyez, miss. Et une réponse immédiate m'obligerait.
Il me faut parler à mon père avant tout, fit évasivement la jeune fille en évitant de regarder l'infâme bandit.
Alors veuillez me suivre, conclut Gressler en réprimant un mouvement de contrariété. À sa suite, Margaret Drake monta sur le pont et pénétra dans une cabine d'acajou située sous la passerelle. Gressler, ayant fait entrer la jeune fille devant lui, referma soigneusement la porte. Margaret se trouva dans une luxueuse chambre dont les meubles d'édrable gris étaient capitonnés de satin boutons d'or. Bien qu'au dehors une brise froide soufflât, l'intérieur de la cabine jouissait d'une température tiède grâce à un radiateur dissimulé sous les boiseries. Margaret ne vit rien de tout cela, ses yeux cherchaient son père. Mais la cabine semblait déserte. Karl Kressler, sans mot dire, écarta les rideaux de soie dissimulant un lit sur lequel Francis Drake, pieds et poings liés, reposait.
« Oh, mon père !» s'écria la jeune fille en s'élançant vers le prisonnier.
« Margaret, toi ici ?» murmura Drake. « Vous voyez que je ne vous ai pas menti, Drake !» fit tranquillement Kressler à l'adresse du prisonnier. Celui-ci ne répondit que par un regard de mépris. « Discutez maintenant tant qu'il vous plaira avec votre fille !» « Comme vous, elle connaît mes conditions, Drake, » reprit Gressler. « Si vous vous entêtez tous deux à faire de mauvaises têtes, eh bien, vous en subirez les conséquences. Je suis décidé à tout. Vous me connaissez assez pour savoir ce que cela veut dire. » Un flot de sang rougit la face pâle du prisonnier. « Vous ferez tout ce que vous voudrez, Gressler, mais vous ne profiterez pas de votre ignominie. J'aurais dû être plus prudent, mais tant pis pour moi. » L'achat des actions de l'Amalgamated Dining Co. ne vous trouvera pas de la faillite. Vous êtes au bout de votre rouleau, et je ne vous sauverai pas. Les actions que vous avez achetées ne sont pas assez nombreuses pour vous donner la majorité lors de l'Assemblée Générale. Et quant à faire concurrence à l'Amalgamated Dining Co., comme vous désespériez, c'est impossible. Elwell ne nous viendra jamais, il ne vendra jamais ses inventions. Il en a confié les plans à Edward Jellis, le solliciteur qui... » Un bref éclat de rire de Kressler interrompit cette diatribe. « Je vous évite de divaguer plus longtemps, Drake, » fit le bandit avec sa tranquillité coutumière. « Tout comme vous, Edward Jellis est en mon pouvoir. Ici à bord, congelé comme un bouton du Rio de la Plata. Et il en est de même de Charles Elwell. » Je vous dirais même que Jellis, sur vos conseils, avait mis les papiers en sûreté chez le consul d'Angleterre, Phelps. Phelps est mort. Jellis a été enlevé par moi du sanatorium de San Blas, où il faisait une cure, et Elwell a été descendu par la fenêtre de sa misérable chambre. Ils sont tous deux à bord. Vous allez, si vous le voulez, venir avec moi, vous les verrez. Je les ai conservés jusqu'à maintenant pour que vous soyez... « Rendre compte que je ne mens pas. Aucun espoir pour vous, Drake. Vous me signerez ce que je veux. Je vous laisserai 100 000 $ de quoi vivre tranquille ou de refaire fortune, si vous le pouvez. Les nouveaux procédés de teinture inventés par Elwell sont en ma possession. Et j'ai mieux. Je possède maintenant le moyen de vous retenir à mon pouvoir, tant qu'il me plaira. Comprenez-vous ? Si vous persistez dans votre stupide refus de me livrer votre fortune, je vais vous remplacer dans la chambre de froid. Vous y resterez tant qu'il me plaira. Pas besoin même de surveillant, je connais seul le moyen de vous rappeler à la vie. Seul, tous les 6 mois ou même tous les ans, je vous ramènerai et vous demanderai si vous êtes décidé
en faire suivant ma volonté. Quant à votre fille, elle partagera votre sort. Maintenant, êtes-vous prêt à signer un blanc-seing, mon nom, Drake? Je veux votre fortune entière, tout, sauf les 100 000 $ que je vous laisse. Et je veux ensuite épouser votre fille, afin de rendre tout naturel que vous m'ayez confié votre fortune. Il faut penser à tout. Dans 10 minutes, vous serez, en cas de refus, soumis de nouveau à l'action de la machine à glace. Chrysler se tut. Margaret Drake et son père se regardèrent en silence. Ils n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Francis Drake lut la pensée de sa fille dans ses yeux blancs. Margaret était décidée à tout. « Vous n'aurez rien de moi, Chrysler !» scanda lentement le prisonnier. « Faites ce que vous voudrez, et que notre sang retombe sur votre tête !» Margaret, elle, ne parla pas. Simplement, elle serra dans les siennes les mains liées de son père, en même temps qu'elle considérait Chrysler avec le plus profond mépris. Le bandit ne s'émut pas. « Dans 5 minutes, dit-il, vous me répéterez ces paroles, Drake !»